Bulle d'histoire. Stéphane Dubreuil.
Waouh!
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
Bonjour à toutes et à tous qui me rejoignez pour une nouvelle bulle d'histoire. Je suis avec quelqu'un que j'aime beaucoup, comme souvent, mais lui, je dois dire que je l'apprécie particulièrement. J'ai la chance d'interviewer des gens que j'admire. Donc, une fois de plus, je suis gagnant. Je suis avec Chris. Chris, bonjour, tu es à Perros-Guirec en plein festival, mais tu prends le temps de passer du temps avec moi. Question rituelle de toutes mes émissions, Chris, qui es-tu ?
Bonjour à toutes et à tous, oui, je suis scénariste d'abord de bande dessinée, désormais éditeur, enfin plus précisément directeur de collection, comme on le dit désormais, en charge de la collection Coup de tête, dont on parlera sans doute dans les minutes à venir. Et je suis brestois, j'ai bientôt 50 ans cette année, donc j'ai publié une quarantaine de bandes dessinées désormais, et puis grand amateur, pratiquant de sport devant l'éternel, bien que je sois encore fumeur, honte sur moi. Mais voilà, j'ai beaucoup pratiqué le football et le tennis de table notamment, et à peu près tous les sports possibles imaginables dont on m'a donné l'occasion d'essayer. Voilà.
Sport à histoire, c'est un peu tes deux, j'allais dire tes deux mamelles, si on peut dire ça comme ça.
Oui.
Donc tu diriges la collection Coup de tête. Qu'est-ce que c'est la collection Coup de tête et d'où vient ce nom?
La collection Coup de tête, alors si on veut la pitcher rapidement, ce sont les grandes histoires du sport qui allient donc à la fois la dramaturgie propre au sport, et Dieu sait s'il y en a, et en même temps d'un événement sportif, d'un grand sportif, ça peut être aussi d'un lieu mythique attaché à l'histoire d'un sport. Mais en même temps, il faut que le récit incarne une période, un événement, un contexte social ou autre de l'histoire. Alors ça peut être quand même de l'histoire proche, voire presque de l'actualité, mais on est quand même un peu plus dans du vrai récit historique dans la plupart des récits, puisque une bonne partie d'entre eux se passe ou au début du XXe siècle, ou la première moitié, ou dans les années 50 à 70 par exemple, pour d'autres bouquins plus récents. Mais l'idée est de ça, de se servir du sport comme véhicule pour illustrer une lutte, par exemple, comme ça a été le cas pour la lutte irlandaise dans Croke Park, ou un moment de l'histoire de France, comme avec À bout de bras, qui est sur la saga des frères Acariès et qui évoque l'Algérie, les pieds noirs et toute cette France un peu des Trente Glorieuses ensuite. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'allier effectivement ce que tu disais au départ, mes deux mamelles, l'histoire et le sport. Et quant au titre de la collection, au départ, elle s'appelait La Saison. Je trouvais vachement bien, parce qu'il y avait un côté, une saison sportive à chaque fois de 3-4 albums par an. Puis, le côté série un peu télé, dont on est tous assez friands depuis pas mal d'années. Mais jusqu'à ce que notre attaché de presse chez Delcourt nous dise oh, « mais moi, la saison, ça me fait penser au jardinage ». Vous l'aurez compris, donc attaché de presse est un peu moins sportive que moi, et j'avais jamais imaginé ce nom sous cet angle, mais qui effectivement pouvait du coup prêter à confusion pour des gens qui ne seraient pas forcément passionnés de sport au départ, alors que j'ai envie d'aller les chercher aussi justement ces personnes-là. Et donc on en est venu à coup de tête. Alors pour beaucoup de gens, c'est le fameux coup de boule de Zinedine Zidane lors de la finale de la Coupe du Monde 2006. C'est très bien, pourquoi pas. Pour nous, c'est plutôt le film de Jean-Jacques Hano avec Patrick Devers, qui est à la fois un de mes films mythiques, mais également sans doute un des premiers exemples dans le cinéma français d'utilisation du sport dans un récit. Voilà.
Oui, puis ça, c'est un récit qui est très politique, qui est vraiment ancré, qui a un récit de lutte, qui a un récit sur le monde ouvrier en plus, quoi.
Oui, c'est vraiment… Alors là, on est dans du quotidien, on n'est pas dans un grand événement, mais ça fait partie aussi des ambitions de Coup de tête, de savoir raconter un microcosme un peu. Là, on a un projet que j'aimerais bien instruire, qui est sur une équipe de baseball en Vendée, et qui raconte finalement l'arrivée d'un sport américain au cœur de la France profonde, on peut dire ça comme ça, au cœur d'une province, une campagne française. Et j'aime bien cette idée de microcosme social un peu que vient incarner un sport, en l'occurrence Coup de tête, c'était vraiment ça, l'histoire d'une petite ville qui via la Coupe de France va se prendre à rêver quelque part, mais avec un pauvre type, quoi, enfin voilà, un type qui est au départ que personne n'aime, et puis qui devient devenu buteur, va devenir le héros de tout un village et va se venger de ce village. Donc c'est vrai, il y avait un côté Clochemerle dans Coup de tête que j'aimais beaucoup, qui est une fiction. Donc la différence, c'est que dans la collection Coup de tête, pour l'instant, bon, sur des faits réels, la non-fiction, comme on dit justement. Après, on s'interdit pas à terme de faire aussi des récits de fiction qui viendraient incarner un moment d'histoire et un moment d'histoire du sport.
Parce qu'en relisant les coups de tête là, que j'ai lu récemment, je me suis dit qu'il n'y avait pas tellement de bandes dessinées sur le sport. Il y a Graton avec la Formule 1. Quand je disais pif, moi, il y avait une histoire de football avec un Français qui jouait en Espagne au Real Madrid, si je me rappelle bien, ou à Barcelone.
Au Barça.
Tout à fait. Il n'y a pas eu tellement de BD, ou alors c'était un peu raté. Là, c'est un sacré défi de te lancer là-dedans.
Ouais, c'était un vrai manque hein, j'avais identifié depuis longtemps. Je suis comme toi, j'ai dû me contenter avec bonheur quand même, hein, évidemment, des Michel Vaillant, Jean Graton, et donc c'est Éric Castel dont tu parlais, mais qui étaient un peu les deux arbres qui cachaient la forêt, ou l'absence de forêt, justement, l'absence de récits sportifs, même si on avait quand même pas mal d'histoires courtes, notamment dans Tintin, qui en a fait pas mal sur l'histoire du Tour de France ou des choses comme ça, mais ça manquait quand même de récits plus nombreux, alors qu'encore une fois, les Anglo-Saxons, eux, l'avaient bien compris depuis longtemps au cinéma. Le sport est un véhicule à histoire et à dramaturgie assez, assez formidable. Et en bande dessinée, mis à part la boxe, qui reste quand même toujours un des sports les plus utilisés dans n'importe quel art en général, mais notamment le cinéma, la bande dessinée ou le roman. Il y avait le vélo, évidemment, grâce à Christian Lax depuis le début des années 2000, et notamment son album L'Aigle sans orteil, et puis les suites qu'il a fait. Mais encore une fois, ça restait très isolé jusqu'aux années, je dirais, 2015 à peu près. En fait, j'encourageais depuis un moment les éditeurs à dire, mais créer une collection autour de ça pour faire une sorte d'appel d'air en fait à des récits autour du sport. Et puis au bout d'un moment, j'ai réussi à signer un maillot pour l'Algérie avec Bertrand Gallic, mon copain co-scénariste, et un maillot pour l'Algérie qui raconte l'histoire vraie. La première équipe de foot algérienne pendant la guerre d'Algérie a eu un vrai succès. Et du coup, à partir de là, il y a eu un intérêt un peu plus prononcé des éditeurs pour ce que je voulais faire. Et c'est Guy Delcourt qui m'a dit, le premier, bah, t'as qu'à la créer cette collection, puisque tu nous la demandes, fais-la, toi. Et du coup, j'ai dit, après tout, pourquoi pas. Et je l'ai fait avec mon co-éditeur, qui s'appelle Louis-Antoine Dujardin, qui lui est éditeur salarié vraiment chez Delcourt, mais qui était mon éditeur déjà sur un maillot pour l'Algérie. Donc, on a décidé à deux de créer cette collection.
Tu trouves facilement des scénaristes et des dessinateurs, parce que dessiner du sport, c'est pas chose aisée, hein. C'est pas facile.
Non, c'est sans doute justement là que résidait un peu le problème du sport en bande dessinée, c'est que représenter la geste sportif, puisque là on peut vraiment parler du geste sportif, et alors que on est dans une narration fixe par excellence, c'est évidemment extrêmement compliqué. Il faut arriver à synthétiser tout un mouvement à travers un millième de seconde. Enfin, voilà, un arrêt sur image. Ensuite, c'est pas une légende. Les artistes sont pas toujours des grands sportifs. Le nombre de dessinateurs qui m'ont dit, tu sais, moi j'étais celui que personne voulait dans son équipe de foot à la récré. Hein. Du coup, ils ou elles ont un recul un peu par rapport au sport. Il y a encore cette image en France que bon, c'est pas un truc très sérieux, c'est un truc un peu populaire. Il y a des fois même une forme de mépris pour ça, et que en tout cas c'est pas bon pour les intellectuels, quoi. Bon, heureusement on en est revenu et on en revient beaucoup. D'ailleurs, il y a le même mouvement de fond en littérature. Hein. On a assisté depuis 7-8 ans à beaucoup de romans très très forts et très très bons, et de grands auteurs qui se passaient dans le milieu du sport. Donc voilà, je pense que maintenant on a dépassé un peu ce mépris qu'il pouvait y avoir, mais ça n'empêche, c'est difficile de convaincre un dessinateur de faire 30, 40, 50 pages. Chaque album, il y a un tiers, une moitié de romans de scènes sportives pour représenter ce mouvement qui n'est pas simple à représenter, quel que soit le sport dont on parle.
Non, en même temps, comme les choix d'auteurs sont vraiment affirmés, comme il y a aussi une politique d'auteur, à la limite, même si c'est pas très bien dessiné, le fait que ce soit un auteur qui assume son geste et que toi, tu l'aies amené là, bah on part avec toi.
On n'est pas dans le beau dessin, de toute façon, parce qu'encore une fois, si on cherche à avoir un dessin très photographique, très réaliste, on va figer justement un peu ce mouvement. C'est très, très compliqué quand même dans un dessin, encore une fois, au réalisme photographique. Et pourtant, Éric Castel, par exemple, avait ce type de dessin-là, mais ils sont rares quand même à arriver à retransposer ces mouvements sportifs dans un dessin photographique. Donc, on est plus à l'aise, oui, avec un dessin de type roman graphique, comme on peut le dire aujourd'hui, avec un dessin qui est plus jeté, qui justement cherche le mouvement et la narration avant tout, et pas forcément à faire le bout. Il cherche à retranscrire l'essence de quelque chose. C'est particulièrement vrai avec un livre comme Les Jujitsu Suffragettes, qui était un des deux premiers de la collection, où Lisa Lugrin, la dessinatrice, fait du jujitsu elle-même et a vraiment travaillé pour retranscrire l'essence de ce mouvement-là. Mais on était vraiment... dans un dessin, oui, jeté, qui essaye vraiment de ne pas figer les choses en permanence, qui essaye pas de faire le beau, mais d'être efficace.
Alors ça, c'est la collection. Là, moi, j'ai envie de parler aussi avec toi un peu de George Best, qui est le dernier album pour l'instant sorti de la collection Coup de tête, que tu as scénarisé. Donc George Best, il fait partie de mes mythes, de mes grandes figures. J'avais George Best, ensuite j'avais Les Verts et Johan Cruyff et puis Ronald Koeman. Voilà, donc George Best, c'est vraiment quelqu'un que je connaissais. Là, j'ai découvert évidemment des tas de trucs parce que t'as dû travailler comme un malade pour dénicher pas mal d'anecdotes et pas mal d'histoires. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots qui est George Best et pourquoi ça vaut le coup de faire un album sur lui?
Ah, George Best, il a été surnommé le cinquième Beatles. C'est d'ailleurs le titre du roman de Vincent Duluc, donc qui est grand reporter à l'équipe, qui a travaillé donc ce roman au départ, que j'ai adapté ensuite en rajoutant des éléments, effectivement, mais c'est parti du roman de Vincent Duluc. Et George Best est au football et à l'histoire du sport, sans doute, ce qu'ont été les Beatles, justement, à l'histoire de la musique pop, c'est-à-dire à l'incarnation d'une nouvelle catégorie de la population, la jeunesse, en l'occurrence. On l'a un peu oublié, mais la jeunesse n'est pas vraiment une catégorie jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment dans les années 50-60 où elle apparaît en tant que telle. George Best va être le premier sportif vraiment médiatisé à être l'équivalent de ce qu'on va appeler une pop star, c'est-à-dire il va passer à la télévision, il va être invité justement aux côtés des rock stars d'ailleurs, on va le voir à un concert de Mick Jagger par exemple à la BBC, enfin des Rolling Stones pardon, danser maladroitement parce qu'il était meilleur sur un terrain de foot que sur une piste de danse. Il est connu pour avoir un nombre d'aventures féminines particulièrement élevées, avec Miss Monde, avec Miss Univers, etc., et tout ce qu'on voudra. Mais comme tout personnage un peu star comme ça, il y a évidemment le revers de la médaille, c'est qu'il n'y avait absolument rien de prévu pour protéger des travers de la célébrité, un personnage comme ça qui, en quelques mois, hein, quelques années, devient totalement adulé, mais c'est un point qu'on n'imagine pas. Et il y a rien pour le protéger, il y a rien pour l'entourer, il y a pas de mode d'emploi à ce moment-là. Et donc George Best va être dépassé par son propre succès et sa propre image, va sombrer notamment dans l'alcool. Il va avoir une deuxième partie de carrière bien moins glorieuse, sportivement parlant, mais humainement parlant. Par contre, ça dit beaucoup de choses justement sur comment on peut se laisser avaler clairement par cette célébrité qu'on n'a pas demandé, dont on profite un certain temps, mais qui ensuite finit par vous dévorer tout cru.
Oui, parce que c'est aussi un joueur exceptionnel qui a une carrière vraiment très courte en plus, puisqu'il devient rapidement alcoolique. On va dire ça, on va résumer comme ça. Il a une carrière très courte, mais il a marqué, moi je ne l'ai pas vu jouer évidemment, mais il a marqué tous les gens qui l'ont approché et qui l'ont vu jouer. Visiblement, c'était extraordinaire.
Ouais, c'est vraiment, il invente des gestes, hein. Il a tout pour lui, il a quand même une gueule, c'est pas en soi un si beau gosse que ça, sauf qu'il a vraiment une gueule, il a un charisme, un regard, il a la coupe de cheveux et le look qui va avec. C'est un type qui est looké à mort. S'il y a bien une chose sur laquelle il n'était jamais en retard, contrairement à l'entraînement, c'était bien sur le look. Il est capable d'exploits assez extraordinaires, hein. À un moment donné, il est suspendu 6 matchs suite à une bagarre. Et quand il revient, bah, il met 6 buts dans le même match jusqu'à 15 minutes avant la fin. Et puis, il arrête en disant 6 matchs de suspension, 6 buts. Voilà, salut. C'était quand même ce genre de personnage. Oui, à une époque où il y a quelques journaux et une chaîne de télévision, quand vous faites des matchs comme il a fait à ce moment-là, bah vous devenez une vedette presque instantanément. Il faut comprendre qu'à 21 ans, 22 ans, il a déjà tout gagné. Il a gagné la Coupe d'Europe, il est le meilleur buteur, il est Ballon d'Or. C'est le problème, justement. C'est que tout est venu tellement vite, trop vite, que la motivation, l'envie, etc., petit à petit, va disparaître et va être remplacé par, finalement, il joue à être George Best. Il joue presque, au final, à être le personnage qu'il a créé lui-même. Mais sa créature va avoir raison de lui.
Je ne veux pas te tenir très longtemps parce que je sais que tu as un agenda super chargé. Voilà, t'as pas beaucoup dormi et tu as encore du travail à faire au festival de Perros-Guirec. Juste des dernières questions, c'est sur le dessin de George Best, parce que c'est un dessin très, comment dire, très subtil et très distancié. Le dessinateur s'est mis, je trouve, à la bonne place pour dessiner George Best. Il y a pas de pathos, c'est pas misérabiliste, c'est toujours vraiment très juste.
Ouais, alors là, ça a été la chance, hein, parce que, en fait, au départ, je devais pas scénariser des albums de ma collection pour pas mélanger, justement, les deux casquettes, éditeur et auteur. Je vais quand même refuser pas mal de projets, donc en mettre un à moi à la place, pour peu que ce soit un album nul, j'aurais pas été forcément fier. Mais, j'avais quand même ce projet de George Best que je voulais quand même laisser un peu à personne, quoi. Il est nord-irlandais, hein, je l'ai pas précisé, George Best, mais, ceux qui me connaissent savent que l'Irlande du Nord est importante pour moi. Le football, les années 60, le côté rock'n'roll, bon, il y avait vraiment un peu tout pour moi là-dedans. Mais c'est quand Florent Calvez, le dessinateur, donc qui est aussi de Brest comme moi, et on est très très amis, m'a appelé pour me dire, bah tiens, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble, ne t'aurais pas un projet? Et assez rapidement, je lui ai parlé de George Best. Lui, il n'est pas du tout un fan de football, mais il était intéressé par tout l'incarnation de cette Angleterre des années 60, 70 et de cette période de l'histoire. Et il a vraiment fait un boulot extraordinaire, je trouve, dessus. Il a adopté un dessin qui rappelle un peu les bandes de comics, notamment anglo-saxonnes, qu'il y avait beaucoup dans les années 70-80, qu'on achetait dans les tabacs journaux, dans les tabacs journaux, etc., où il y avait pas mal, justement, de publications sportives, comme En Piste, Trophée ou autres, et avec un dessin assez réaliste qui incarne très bien les personnages. Et en même temps, il y a une atmosphère, on sent l'Angleterre industrielle, on sent on sent la gadoue, parce que les terrains de football à l'époque, c'est pas des billards, hein, très loin de là, et on sent les rouflaquettes, les poils et la sueur, enfin voilà, on sent un peu tout ça. Et et vraiment, je suis super content, ouais, de cet album qui, en plus, une couverture qui est une idée, encore une fois, de Florent, hein, qui reprend le fameux album des Beatles, mais avec George Best un peu à leur place, traversant la rue. Ouais, vraiment, voilà, c'est un livre dont je suis bien content. Je ne sais pas du tout si on en vendra des wagons, mais en tout cas, nous, on a pris énormément de plaisir à le faire.
Ouais, ça sent, il faut lire ce livre en mangeant un fish and chips un peu gras, quoi.
Exactement.
On y est.
Exactement.
Chris, je te remercie, je redis tout. Donc, George Best, Twist and Shout, c'est le sous-titre de l'album. Vincent Duluc, c'est le romancier qui est co-scénariste, je crois que c'est ça.
Ouais, c'est le roman adapté, ouais.
Laurent Calvez, c'est le dessinateur, vraiment le très beau dessinateur avec un jeu de couleurs qui est étonnant et remarquable. C'est publié par les éditions Delcourt, ça fait 80 pages et c'est au prix de 17,95 €. Et on trouve ça dans toutes les bonnes et même les mauvaises librairies, je crois.
Ouais, c'est ça.
Bon, Chris, bonne balade en bateau et à très vite.
Bulle d'histoire. Hein ? Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil.
Waouh !
Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.